Bonjour amis auditeurs, vous êtes avec Sophie ce matin sur Page en Partage et aujourd'hui je reçois Marie Capron, bonjour Marie.
Bonjour Sophie.
Pour parler de son roman, de son livre qui s'appelle Priya, la fille du boucher. Alors on a une très jolie couverture, où on a un genre de tricot en route, avec, mais c'est du tricot de viande, un peu comme de la viande hachée. Je trouve que la couverture est déjà très très parlante pour un polar. On va parler de viande.
Oui, alors pour la petite histoire, lorsque mon éditrice m'a proposé cette couverture, j'étais un peu vexée parce que je n'avais pas mis mes lunettes et je n'ai vu que les aiguilles. Et je me dis, mais pourquoi elle me donne un tricot? Je tricote pas, je suis pas une nana qui tricote. Et puis mon amie qui était à côté de moi me dit, mais hé, la vieille, mets tes lunettes. Et là, j'ai vu le morceau de viande et sans dévoiler l'histoire, je n'aurais pas pu rêver mieux que ce fil narratif de viande sur la couverture.
Alors, votre livre est ton livre, hein, et on va se tutoyer.
Oui, on se tutoie.
Donc, est publié aux éditions Viviane Ami, donc on en reparlera aussi de ton éditeur, mais à brûle pour point, j'ai envie de te demander, est-ce que tu es vraiment la fille d'un boucher toi-même?
Alors, je ne suis pas la fille d'un boucher, en revanche, j'ai bien été charcutière pendant 2 ans et demi, puisque j'ai fait un parcours un petit peu surprenant, j'étais charcutière étudiante en lettres. Alors ne va pas chercher le parcours tel quel, il n'existe pas, mais bref, c'était pour me payer mes études après une classe prépa. J'ai bossé au stand de charcuterie d'Auchan et j'ai mis mes mains dans la graisse et dans les tripes et j'ai démoulé des pâtés et j'ai utilisé des couteaux. Et surtout, j'ai été au contact de la chair morte. Et je pense que ça m'a marqué, d'autant qu'il y a un certain cynisme dans la manière dont on traite les animaux morts dans les stands de charcuterie de grande surface, puisque on essaie de faire croire à l'acheteur que l'animal est heureux d'être sur un plateau. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais on fait sourire les petits cochons de lait, on leur met des fleurs dans les oreilles,
du persil
dans le nez. Et je trouvais ça d'un cynisme assez atroce. Et comme tu as lu Priya, je pense que tu sais exactement à quel endroit du livre j'ai réexploité mes mémoires de charcutière.
Oui, je vois tout à fait. Alors, est-ce que toi, ça t'a dégoûté de manger de la viande ou pas, cette expérience?
Alors, pas du tout. Alors, d'abord, très honnêtement, je ne suis absolument pas végétarienne. Je continue à manger de la viande rouge. J'adore ça. Mais j'essaie d'en faire une consommation raisonnée et raisonnable. C'est-à-dire que j'en mange très peu. J'essaie d'acheter bio, mais enfin, bon, on va pas se mentir, c'est très hypocrite de dire je mange de la viande bio,
oui,
parce que ça reste quand même, je veux dire, à un moment donné, mon bœuf, il va quand même être tué pour se retrouver dans mon assiette. Et ça, c'est ma part de monstruosité assumée. Et la monstruosité, comme tu le sais, est justement un thème que je traite dans le roman.
Et en plus, à La Réunion, je pense que c'est difficile de ne pas manger de viande.
Hein. Eh ben, ça dépend à quelle communauté tu appartiens.
Alors oui, peut-être si on habite Saint-Leu où il y a quelques restaurants végétariens, végétaliens, mais le reste du temps, carré quand même.
Bah non, si on est dans la communauté indienne, on
oui,
évite...
Oui, moins quand même. Là, on a des vrais végétariens.
Voilà, voilà. Et d'ailleurs, Priya en fait partie.
Tout à fait. Alors, on va revenir sur Priya, mais je veux quand même un peu continuer avec toi. Donc, ce rapport à l'écriture que tu as, qu'est-ce qu'il est? Comment est-ce que c'est venu? Alors, apparemment, tu as fait des études de lettres, tu es quand même dans le milieu littéraire, mais est-ce que tu as toujours écrit? Est-ce que c'était toujours des polars?
Alors, est-ce que j'ai toujours écrit? Oui. Le premier livre, entre guillemets, je dis ça sans prétention, c'était à 4 ans. J'ai appris à écrire très jeune. Et c'était, je ne sais pas si tu as connu les mini-livres de chez Pomme d'Api, on devait découper des petits livres. Et donc voilà, ça s'appelait La Trésorerie de Molière. Et j'avais vu le film d'Ariane Mouchkine, j'étais tombée amoureuse de l'acteur. Et en réalité, j'étais tombée amoureuse de Molière et j'avais écrit un livre qui racontait son enterrement. Voilà. Et puis ensuite, j'ai toujours écrit, quand j'étais ado, j'avais des journaux intimes, j'en ai toujours, malgré mon âge.
Pourquoi pas?
et après, j'ai commencé à vraiment écrire pour être publié, mais à très petite échelle, quand j'étais à Mayotte, où je faisais des piges pour le journal Le Quasi, qui était un quotidien. Et c'était du journalisme de terrain de tous les jours. Alors je couvrais l'ouverture de l'école maternelle ou les matchs de foot, alors, ou les élections, alors que je n'avais aucune connaissance dans ces trois domaines. Et surtout, j'ai écrit des comptes rendus d'audience pour le tribunal de Mamoudzou. Et ça, en revanche...
Ah, c'était... ça t'a nourri par rapport à l'orientation que tu as pris aujourd'hui.
Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, psychologiquement, c'était costaud. Et j'ai eu quelques anecdotes salées qui, peut-être, m'ont fourni du matériau pour la suite. Et ensuite, une fois à La Réunion, j'ai écrit à l'Azinda, sous le pseudonyme de Zerbinette, où j'écrivais des chroniques culturelles.
Oui.
Et puis ensuite, avec mon camarade Manzi, que je salue bien bas, on a créé un webzine culturel qui s'appelle Bongou, B-O-N-G-O-U. Et là, on écrit des chroniques de spectacle.
D'accord.
Sur la vie culturelle à La Réunion.
Bon, très bien. Eh bien, voilà, on en sait un peu plus. Alors, juste, je vais quand même revenir sur le polar. Est-ce que c'est ton genre favori? Est-ce que tu lis plus des polars ou... Parce que c'est pas... Il y a beaucoup de femmes qui écrivent. Alors, Alain me dirait, oui, c'est toujours des femmes qui écrivent à La Réunion. C'est pas vrai, d'une part, mais il y a quand même beaucoup moins de femmes qui écrivent du polar en général, ou je me trompe?
Alors, il y a de plus en plus de femmes qui écrivent du polar. Mais c'est vrai que c'est récent. Mais... Je vais te confier un secret. Depuis que j'ai sorti ce premier polar, on me demande toujours si j'ai été attirée par ce genre, etc. Et ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Je ne me suis pas dit « je vais écrire du polar ». Je me suis dit « je vais exploiter la terreur et la peur que j'ai en moi ». C'est mon moteur, la peur et la terreur. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur, Sophie ?
Bah, on se cache.
On se cache ou alors on court.
Ou alors on affronte. Hein.
C'est, on affronte.
L'adrénaline, c'est pour ça.
Voilà.
C'est soit pour courir, soit pour se cacher.
Voilà.
Soit pour affronter.
Et bien, si tu veux, le moteur de mon écriture, c'est l'adrénaline. Ce qui fait que d'ailleurs, j'écris pas plus d'une heure par jour parce que j'ai besoin que ce soit extrêmement intense. Et moi, quand j'ai peur, je cours. Et pour, si tu veux, transformer les peurs que j'ai accumulées, eh bien, j'écris et ça doit être comme une course. Et alors, quel est le genre littéraire qui se prête le plus à ça? Ben, il se trouve qu'on m'a appris que c'était le polar. Donc, j'écris du polar malgré moi.
Bon, ben, c'est une réponse intéressante. D'ailleurs, c'est là que moi, je t'ai vu pour la première fois. On va peut-être revenir juste deux minutes sur cet événement qui a été organisé par la médiathèque de Saint-Pierre, la nuit du polar. J'ai trouvé que c'était chouette puisqu'il y avait tous ces auteurs de polar qui étaient là. Et rencontrer les auteurs et lire leurs livres après, ou toi, pour toi peut-être avant, c'est toujours très intéressant.
C'est vrai. Alors d'abord, un grand merci à Fabienne Laurette qui a porté cet événement à bout de bras avec brio. Et alors moi, j'étais ravie de rencontrer Jonathan Théroud et Christophe Chabiran et Jean-Élie Chab et de leur poser des questions sur le processus créatif. Et j'ai constaté à quel point on était tous complètement différents.
Tous différents, hein, le processus créatif.
Alors je suis jalouse de Jonathan et de Christophe et de Jean-Élie qui disent... pouvoir écrire pendant des jours et des nuits et après arrêter, alors que moi je suis extrêmement régulière et besogneuse, je ne peux pas faire comme eux, je suis incapable d'écrire ne serait-ce que 2 heures durant, mais j'ai besoin d'écrire tous les jours.
Tu as ta routine d'écriture.
Oh là là, ouais. C'est terrible.
Et tu vois ça comme un travail, quoi. Quel est ton processus pour t'améliorer ou comment est-ce que tu fais?
Mon processus...
Toi, tu procèdes comment?
Je suis extrêmement organisée, rigoureuse. Tout mon roman est écrit à l'avance.
Et tu t'y tiens.
Sur un storyboard presque. Et j'ai les scènes qui sont écrites avec par scène, par numéro, par personnage, par lieu, par date. Et tous les jours, j'écris 500 mots. Si je n'écris pas 500 mots, je n'ai pas le droit de me lever de ma chaise. J'ai rarement envie de m'asseoir. Alors ça aussi... tu vois le mythe de l'écrivain qui reçoit l'inspiration divine. Moi, manifestement, les muses n'ont pas trouvé le chemin de mon appartement parce que c'est toujours une besogne. Et c'est une fois dedans que j'ai la satisfaction de plonger dans mon histoire. Mais au début, j'ai rarement envie de me dire « Allez, tiens ma vieille, assieds-toi, on va aller flinguer des gosses ».
Oui, alors là, ça, c'est, on y reviendra. J'ai pas encore fini. Alors,
Charcuter des gosses, d'ailleurs.
On va parler de ce projet que tu as eu, Priya, la fille du boucher. Donc, tu as soumis ce manuscrit. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de la façon dont ça s'est passé, ensuite le travail avec ton éditeur,
Oui, alors ça,
les
c'est.
relectures, etc.
Tu sais, ça, c'est une très belle histoire, comme il en arrive une fois dans une vie. D'abord, comme je te le disais, j'écris depuis très longtemps. Et donc, il y a, je crois, 15 ans auparavant, j'avais soumis mon premier manuscrit à plusieurs maisons d'édition, ça s'appelait Donner la vie, et j'avais essuyé 17 lettres de refus que j'ai affichées dans mes toilettes.
Alors, il y a d'autres auteurs qui ont dit que 17, c'est pas beaucoup, hein, qu'ils
Je
en
me
ont
souviens.
reçu plus, mais c'est déjà
Ouais.
quand même, voilà.
Alors, c'est simplement qu'il n'y a que 17 maisons qui ont pris la peine de me répondre, les autres n'ayant même pas donné suite à mes envois. Mais en réalité, j'avais fait une cinquantaine d'envois. Je m'étais ruinée à l'époque. C'était l'époque où tu ne pouvais envoyer que la version papier.
Ouais, donc il fallait imprimer, payer les
Voilà.
timbres, etc., etc.
Bref, parmi les lettres, il y en avait une qui était de Flammarion, qui m'encourageait quand même pour le livre, mais qui me dit que voilà, il va falloir poursuivre mes efforts parce que l'intrigue est trop complexe et je risque de perdre mes lecteurs. J'écris quelques années plus tard un deuxième livre, et là je suis beaucoup moins ambitieuse et je l'envoie à une maison d'édition qui n'était pas de l'auto-édition, mais qui était une plus petite maison d'édition, qui ne possédait pas de service presse. Elle accepte mon livre se vend à 200 exemplaires que je suis obligée d'aller porter moi-même dans les librairies, au porte-à-porte. Bon, voilà, et on n'en entend pas beaucoup parler. Et puis le troisième, Priya, la fille du boucher. Je l'écris et là je me dis, ma fille, tant pis, tu tentes le tout pour le tout, mais tu vas tenter les grandes maisons d'édition et on verra bien. Donc je me fais un plan de bataille. Je prévois d'envoyer 150 fois mon livre.
Oui.
J'ai trouvé 150 maisons
150 mails.
d'édition.
Est-ce que c'est par hasard
Non, non,
ou
non, je...
ciblé? Ciblé,
ciblé,
très
c'est-à-dire je
ciblé.
commence par les grandes maisons
Oui.
d'édition, il y en avait 10. Et puis je. Alors, quand je dis les grandes maisons d'édition, bon, oui, vraiment, enfin, qui sont sélectionnées dans le polar. Et puis j'élargis mon champ. Et à la fin, ça devait partir au Canada, à Tahiti. Enfin voilà, je n'aurais pas lâché, Sophie. Et je poste les 5 premiers, je te dis bien les 5 sur les 10, je n'en poste que 5, version papier, à la poste, avec ma fille, dans une petite enveloppe. On était en plein Covid. Les éditeurs disaient arrêtez de nous envoyer des
Oui,
manuscrits.
tout le monde voulait écrire pendant le Covid.
Voilà, qu'à cela ne tienne, je poste, je rentre chez moi et moins de 3 semaines après, à 21h17, je rallume mon téléphone parce que normalement je me couche comme les poules, mais je rallume mon téléphone pour voir si je n'avais pas reçu un texto que j'attendais et je n'avais pas reçu le texto que j'attendais, mais j'avais un message de Paris. Et je rappelle le numéro et là j'entends oui bonjour Lise Chasteloup, directrice des éditions Viviane Ami, et je lui ai presque raccroché au nez en lui disant écoutez, je suis en PLS là, alors si vous me faites une blague, c'est pas drôle, j'ai du mal à croire, j'ai presque agressé cette chère Lise, je n'y croyais pas.
D'accord.
Et en fait, elle m'a parlé en me disant mais si, mais j'ai adoré votre roman, et elle m'a parlé de mon bouquin pendant 25 minutes. Et là, tu te souviens que 15 ans auparavant, j'avais toujours mes 17 lettres de refus dans les toilettes où on m'expliquait que j'avais pas de rythme, que ci, que ça, etc. Et je n'y croyais pas, je n'y croyais pas. Bref, j'ai été aux anges, j'ai vécu un des plus beaux moments de ma vie. Je me disais, mais c'est pas possible, ça arrive, ça y est, ton travail paye. C'était surréaliste. Et après, chère Sophie, il y a eu la phase B.
C'est-à-dire la relecture et les corrections.
Voilà,
Et
c'est-à-dire la
ça,
phase
c'était
B,
un
tu
gros
vois.
travail ou pas?
Alors, c'était un gros travail puisque Lise m'a appelée en avril et le livre est sorti en mars de l'année d'après.
Oui, bien sûr, ouais.
Donc, en mai, j'ai reçu le contrat. En juin, j'ai reçu les corrections. Et là, pour te donner une petite idée, ça ressemble à quoi? Je le dis pour les gens qui veulent écrire. Eh bien, tu reçois une page. Et sur une page, tu as par exemple 5 ou 6 petites bulles dans la marge. Et à chaque fois que tu ouvres une bulle, tu as un arrêt cardiaque parce que tu as un paragraphe de 4 lignes qui t'explique
Pourquoi
que
ça
là,
va
tu
pas?
pourrais enlever la virgule, que peut-être cet article est mal placé. Et c'est extraordinaire ce travail de finesse
Oui.
qu'on fait pour élaguer le style, sans compter les jeux, tu sais, de... Tu sais, ce jeu avec des briques, là, où on déplace les briques.
On déplace un petit peu.
Voilà, ben, c'est Tetris, un peu pas... hein. Voilà, c'est Tetris. Certains passages, on les met ailleurs pour plus d'efficacité. Et ce Tetris a duré quand même 3 mois.
Ouais.
Et je travaillais tous les jours. Hein.
D'accord.
Alors, si tu veux, parce que ça, c'est le premier retravail, mais j'ai intégralement retravaillé au moins 4 fois. Alors là, chers auditeurs, vous allez dire, mais en fait, ton livre était pourri. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que le retravail, c'est du travail de détail. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a corrigé, par exemple, les tournures, qu'on les a affinées et élaguées, on revoit la ponctuation. Après, on affine encore, on revoit la disposition des paragraphes. Tout ça, c'est moi qui le fais, c'est pas...
Oui, il n'y a pas quelqu'un qui dit « on vous l'a corrigé, vous êtes d'accord,
signez-la ». Ouais. Et après, il faut que je te raconte un truc. Je pense que c'est assez intéressant parce que ça, c'est les gens ne le savent pas. Après, tu crois que tu as fini.
Oui.
Donc, tu attends que ton livre sorte. Et là, en fait, non. Là, ton éditrice te dit « bon, maintenant, je vais envoyer ton livre à Colette ». Alors, Colette, imagine-toi une petite dame qui travaille au 4e sous-sol d'un immeuble obscur, quelque part dans la région parisienne, dont je ne donnerai pas l'adresse, et son travail est d'éliminer les moindres résidus d'imperfection. Je l'imagine travaillant avec un scalpel et un microscope et ne fréquentant pas le genre humain. Et là, Colette, ou on pourrait l'appeler Claudine, ou je n'en sais rien, mais je vois quelque chose d'un peu suranné, et c'est pas péjoratif. Elle élague, et elle a encore trouvé des coquilles. Et là, tu reçois à nouveau ton manuel et Colette te dit, ou Claudine, elle te dit, à la page 47, elle a parlé de champignons sous la neige. Or, j'ai vérifié, le champignon, elle te donne le nom du champignon, ne pousse que dans les contrées humides, donc c'est impossible.
Oui, donc elle va regarder s'il y a des incohérences.
À la page 88, tu as parlé d'un vival près de la fac de médecine. Or, j'ai vérifié, près de la fac de médecine, il n'y a que des monoprix et des prises uniques.
Ouais.
Le vival est à 87 km dans la région un peu plus éloignée.
D'accord.
Et là, tu craques, parce que ça fait quand même 4 mois que tu retravailles et que tu te dis « ça y est, j'ai fini ». T'as quand même écrit pendant un an.
Oui.
Et alors, en fait, tout cela, ça n'est rien, parce que j'aime bien raconter cette anecdote. Pierre Lemaître aurait réécrit son premier chapitre, je crois qu'il l'a réécrit 37 ou 42 fois. Donc je suis vraiment une petite joueuse.
Bon, bah très bien.
Et merci Colette pour ton travail formidable.
Bon, alors on va peut-être faire une petite pause musicale. Est-ce que la musique, ça t'a permis aussi de tenir? Est-ce que tu écoutes la musique quand t'écris ou après, avant?
Alors oui, j'avais une playlist fétiche que j'écoutais pour le premier tome de Priya, qui était la playlist de Mindhunter, une série que je regardais sur Netflix qui raconte l'histoire des premiers profilers au FBI.
Ah, d'accord, donc ça te mettait dans l'ambiance.
Ah oui.
Alors, pas du tout ce qu'on va écouter. Tu as proposé qu'on écoute Teen Poppy. Tu veux dire quelque chose par rapport
Mais
à cette chanson?
Bien sûr. Alors, Teen Poppy est une femme que j'aime beaucoup. Je l'ai rencontrée d'abord au-delà du fait qu'elle est belle, intelligente, sympathique. C'est une femme forte qui propose la ségathérapie. C'est une résiliente. J'ai beaucoup aimé son spectacle et son approche de battante. Et oui, forcément, ça me parle. Salut Teen Poppy.
Ok, alors on fait une petite pause et on revient vers vous.
Dans mon pays magnifique, Nena, un carreau, bret de chouchou, 50 pieds, anana, Nena. La joie, verre champagne, sans sa whisky coca. Dans mon pays magnifique, les gars, Mikoz et Kaya, par côté Roche-Bois, mi danse en séqué, en reggae, en séga, mi gâte, puis des mounes, moins les piles, les rexa. Dans le pays là, m'y invite, qui ça m'y veut. Dans
Vous êtes sur Radio Sud Plus, dans Page en Partage aujourd'hui, je suis toujours avec Marie Capron et on va parler de son livre, donc Priya, la fille du boucher. Donc c'est pas un livre sur la Réunion, on est bien d'accord, donc le seul lien c'est Priya et j'avais envie de te poser cette question puisque quand même Priya c'est une réunionnaise d'origine indienne et qui finalement n'aime pas ses origines, hein. Elle ne dit pas du bien de la Réunion.
Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'elle... Alors, elle a du...
Les fêtes familiales, la plaie. Voilà, c'est comme ça qu'elle le décrit.
Alors, c'est pas qu'elle elle aime la Réunion, mais effectivement, elle a fui sa famille et c'est une déracinée. Et disons que... Elle ne peut pas non plus rejeter son héritage. Je suis en train d'écrire une suite et on va bien voir qu'on ne peut pas rejeter l'endroit d'où l'on vient.
La suite va être intéressante.
Voilà, donc je ne peux pas dire, elle aime son île, mais elle n'a pas rencontré dans son île, pendant son enfance, son adolescence et sa jeunesse, l'opportunité de devenir qui elle est, c'est-à-dire une femme indépendante, puisqu'elle est issue d'une famille traditionnelle où le modèle qu'on lui proposait, c'était de se marier, d'avoir des enfants. Et elle est claustrophobe et elle a beaucoup de mal avec les fêtes de famille, le temple, les foules, les bruits, les couleurs.
Non,
voilà.
Mais disons que ça change parce qu'il y a beaucoup de réunionnais qui viennent écrire sur sauter la mer et que alors on est dans la nostalgie, il y a ça et ça qui manque. Et là, on est content aussi de voir une réunionnaise indépendante et qui se plaît dans son nouveau métier, voilà, dans le brouillard et dans la pluie, mais c'est pas grave.
Oui, alors j'ai envie d'ajouter deux choses, Sophie. D'abord, je ne suis pas réunionnaise, mais je voulais que mon héroïne le soit, et on partage avec Priya une chose, pas qu'une d'ailleurs, mais on partage le fait d'être des déracinées toutes les deux, puisque moi je suis une Zoreille et je vis à La Réunion depuis 20 ans, ouais. Et j'ai volontairement quitté la métropole pour m'éloigner d'un certain nombre de choses, j'en suis consciente. Voilà, et la deuxième chose, eh bien, je l'ai oubliée au vol. Donc, ça reviendra.
Alors, est-ce que je peux lire un petit peu ?
Je t'en prie.
Alors, on va découvrir Priya. Je déteste les dimanches. Pourtant, j'ai essayé de les apprivoiser. Je les ai baptisés les jours crayeux, en référence aux heures caniculaires de la Réunion, quand la chaleur transforme la lumière en illusion laiteuse, empêchant le cerveau de distinguer les couleurs. Quand j'étais gosse, c'était le jour des fêtes familiales, la plaie. On se levait aux aurores pour aller au temple. Cette routine m'a toujours gonflée, surtout son caractère obligatoire. Je voulais ce temps-là pour moi, un moment de solitude. Mais être asocial dans une famille nombreuse relevait du luxe autant que de l'utopie. Voilà, donc on va pas tout lire, mais...
Alors ça y est, j'ai retrouvé le fil. La deuxième chose que je voulais dire, tu vois, mes revenus après ta lecture. Oui. Voilà, j'ai une amie réunionnaise, indépendante, une femme forte, qui vient d'une famille indienne et qui... Et dans ce cas, j'en ai plusieurs d'ailleurs, et qui me disaient, mais alors moi, les fêtes de famille, ça me gonfle. J'en ai aussi plein qui adorent ça.
Hein. Oui, bien sûr. En même temps, les fêtes de famille, ça peut être très sympa, mais quand c'est une injonction auquel on ne peut pas déroger, voilà. Là, on est obligé d'y aller, sinon c'est un drame.
Après, qu'on soit clair, ces mêmes modèles existent en métropole.
Tout à fait,
et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai fui. Je ne stigmatise pas les fêtes indiennes.
Oui, bien sûr. Alors, si on parle de ce livre, donc on a à nouveau une inspectrice qui est femme, ça aussi c'est bien. Est-ce que tu es un petit peu féministe par hasard ?
Je suis très féministe, mais j'espère ne pas être une féministe hystérique ou une féministe extrémiste. C'est-à-dire que j'aime les hommes et je ne prétends pas me dire qu'on leur est supérieur. J'aime simplement l'idée d'une égalité. Je suis féministe des années 60.
D'accord, c'est une réponse. Alors, j'ai envie vraiment de rentrer maintenant dans le sujet de ce livre. Donc, moi, j'ai trouvé que tu avais les meurtres les plus horribles qui avaient jamais été décrits, parce que j'ai l'impression que tu dépasses une sorte de tabou. Je ne l'ai pas vu souvent dans les romans policiers. Tuer des enfants, des bébés, et de la façon la plus machiavélique qui soit. Mmh. Qu'est-ce que tu as à répondre de ça ?
Alors, j'ai beaucoup de choses à répondre à ça. D'abord, j'ai eu une enfance et une adolescence un peu particulières. J'ai été au contact d'une personnalité psychotique. Voilà. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses. Et j'ai besoin, évidemment, de faire quelque chose de mes souvenirs. Non pas que j'ai vécu très exactement ce que je raconte, bien sûr. Mais en tout cas, vous vous doutez bien qu'on ne va pas raconter de... Je ne serais pas capable d'inventer tout cela si ça ne venait pas d'un noyau sombre. Donc j'essaie d'en faire quelque chose. Et pourquoi les enfants ? D'abord parce que je crois que c'est la chose la plus horrible qui puisse arriver à un individu, c'est quand on s'attaque à lui lorsqu'il est enfant, parce que l'enfant n'a pas les barrières, n'a pas les moyens de mettre les limites et n'a pas les armes. Donc ça, c'est la première chose. Et pourquoi les enfants aussi ? Je suis maman. Et donc, bien évidemment, la peur qu'on s'attaque à mes enfants, c'est ma pire peur.
Alors, je pense que pour un parent, perdre son enfant, c'est la pire chose qui puisse lui arriver dans sa vie. Mais les perdre de la façon dont tu les décris, c'est au-delà de l'enfantement.
Parce qu'il y a de la torture et que ce thème de la torture, je le connais bien. Alors, je n'ai pas vécu la torture physique, mais j'ai vécu la torture psychologique. Et voilà, j'ai 47 ans. Il a fallu que j'attende d'avoir 47 ans pour pouvoir le verbaliser. Et donc, comme je ne suis pas une victime, je fais du recyclage. J'aime bien dire que je fais du développement durable. Voilà, et je recycle des souvenirs, des terreurs, des traumas.
Ok, ça peut mieux se comprendre et dans alors, le contexte que tu décris.
Et une bonne nouvelle pour mes lecteurs, enfin j'espère, et je dis ça sans prétention, chers lecteurs, sachez que j'ai du stock. Voyez, là, je n'ai exploité que 5% de mon stock de souvenirs.
Wow.
Donc, je suis très heureuse de vous dire que je ne pense pas être à court en matière. Alors, peut-être qu'après, je m'en lasserai. Et vous aussi, d'ailleurs.
Non, pour le moment, je crois qu'en tout cas, le livre nous tient en haleine d'un bout à l'autre. Hein, ça, il n'y a aucun doute.
Mais peut-être parce qu'il y a une dimension authentique, je ne triche pas. Alors, encore une fois, je ne retranscris pas exactement ce que j'ai vécu, mais il y a des choses quand même.
Bon, d'accord, parce qu'on se demande comment on peut écrire des choses comme ça a une vie toute rose. C'est ça aussi.
Alors, tu sais...
Ou peut-être pas, peut-être que justement...
Je crois qu'il y a peu de gens qui ont des vies toutes roses, mais en tout cas... Et puis c'est prétentieux de penser qu'on a eu la vie la plus horrible. J'ai eu une vie formidable. Mais en tout cas, les démarrages ont été... quand même assez costaud.
Donc il y a des traumas de l'enfance qui sont plus difficiles aussi à
dépasser. Je pense qu'écrire est une merveilleuse solution.
Donc, une écriture thérapeutique aussi pour alors, toi un petit peu.
Oui, enfin j'ai horreur de l'écriture, j'ai horreur du journal intime, tu vois, j'ai horreur de lire des autobiographies. Mm-hmm. J'aime lorsqu'on a cette pudeur de passer par la fiction. Mais je comprends que certains aient besoin de faire de l'autobiographie. Maintenant, moi, j'ai besoin que les horreurs, que les traumas soient habillés okay. par la fiction.
Très bien. Alors, est-ce que tu utilises un peu de toi-même quand tu as un de tes deuxièmes personnages, donc Marc Aubert qui est un auteur lui aussi en mal d'inspiration. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as vécu ou
Alors, d'une certaine façon, oui, on peut dire que j'ai rencontré des personnes comme Marc Aubert, oui.
D'accord.
Et là, pour le coup, je ne me suis pas inspirée de moi, mais des gens qui étaient dévorés par l'écriture. Et finalement, qui en venait à ne plus voir, à ne plus considérer les autres, les membres de leur famille, les gens qui les aiment. Oui, j'ai connu ça. D'accord.
Alors, on va quand même, sans trop parler de ce qui se passe dans ce livre, dire que ça tourne quand même autour du thème de la mort des animaux, hein, et puis qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à tuer un peu des enfants comme on tue des animaux.
Oui, c'est ça.
Donc on parle du broyage des poussins, du gavage des canards, des processus de tannage du cuir, tout ça c'est autour des meurtres. Est-ce que toi-même tu pourrais être une militante de ce groupe que tu as créé là, le CCMA? Est-ce que tu milites? Est-ce que c'est pour toi une façon de militer ou de faire connaître toute cette façon dont on... tout ce qui se passe quand on mange de la viande, en fait, disons les choses comme elles sont?
Alors, je n'ai pas cette posture de militante. Je ne milite pas pour le droit des animaux, même si je suis sensible à ce droit. Je dirais juste que je soulève des paradoxes. Je soulève ce paradoxe qui est de dénoncer la monstruosité dans un domaine et de fermer les yeux sur la monstruosité dans un autre. Et le psychotique de mon histoire vous pose une question, chers auditeurs. Il vous dit, voilà, donc vous, ça vous révolte quand on broie des poussins, et si je broie un bébé? Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais enfin, ça n'a rien à voir, on ne peut pas comparer la valeur d'un être humain et la valeur d'un animal. Ben, rien que cette question, elle pose question. Les deux sont atroces, alors bien sûr, vous voyez, et donc, je ne milite pas, je me pose des questions sur la monstruosité. Et je soulève cette question dans tous les domaines où elle m'apparaît.
Bon, alors, ton livre est quand même un peu dans des sujets qui sont à la mode, entre guillemets, puisqu'on a eu des militants qui ont été
Bien
dans
sûr.
Des abattoirs,
mais parce que
qui
les
cherchent
yeux.
À dénoncer. Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait que ton livre marche, c'est qu'il nous amène à réfléchir à ça aussi.
Ben,
et moi, à la veille de Noël, où on va tous manger du foie gras.
Oh là là, j'en ai pas encore acheté, mais je vais le faire en sortant de chez toi, je n'ose pas.
Donc il y a le fameux faux gras que mangent les végétariens, mais ça ne fait pas si envie non plus. Hein.
Mais justement, je crois que la seule chose pour laquelle je milite, c'est qu'on reconnaisse la part de monstruosité qu'on porte. Et tout à l'heure, je te donnais l'exemple de la viande en disant je dénonce, enfin, on pourrait croire que je dénonce les mangeurs de viande alors que j'en mange moi-même, mais c'est juste qu'on a tous une part de monstruosité, on compose tous avec notre monstruosité, on ferme les yeux sur certaines choses alors qu'on sait pertinemment qu'elles sont mauvaises, mais par contre on est très habile à voir la poutre dans l'œil du voisin.
Tout à fait.
Et donc c'est vraiment toutes les questions que je soulève dans Priya, je ne tranche pas. Mais on a tous des zones d'ombre, on compose tous avec des choses qui ne sont pas très chouettes. Et je donne l'exemple de mon téléphone, un iPhone, on n'a pas le droit de faire de pub à la radio, ben, tant pis, c'est pas pour faire de la pub, mais je sais très bien que les composantes de cet iPhone sont recherchées par des gamins en Afrique. Je le sais, c'est horrible, j'ai des gosses et pourtant j'ai quand même acheté cet iPhone.
Oui, on est dans une société où on est au courant de tous
voilà.
les scandales, mais en même temps, il y
est...
en a très peu qui
Alors,
se radicalisent et qui mettent en application révolte.
Voilà.
Peut-être notre âge moins, peut-être les jeunes vont aller plus
Alors, les
dans,
jeunes
dans les extrêmes.
Alors les jeunes sont formidables pour ça, mais tu vois, la question que je pose, c'est la question du degré. Alors bien sûr, quand c'est un psychotique ou une psychotique qui se met à broyer des enfants, alors là... Tout le monde voit que c'est un monstre, tout le monde la montre du doigt, mais elle peut à son tour se retourner vers vous et vous dire mais vous alors, vous êtes parfait ? C'est juste une question de degré, la monstruosité, mais elle est en chacun de nous. C'est vraiment ça qui m'intéresse.
Ou peut-être que dans le futur, ce que nous, on considère comme normal, comme on va bientôt fêter là, le 20 décembre la fête de l'esclavage,
bien sûr.
À cette époque, ça paraissait tout à fait normal.
Exact.
Et
ça, c'est
puis,
un très bon exemple.
Voilà, les mêmes, ceux qui étaient affranchis des esclaves, ils prenaient eux-mêmes d'autres esclaves. Donc, ça paraît bizarre, mais aujourd'hui, peut-être que notre façon, notre rapport à la viande, hein, et puis à tous ces abattoirs que personne ne veut vraiment savoir ce qui se passe dedans, dans les générations futures, on verra que ton livre était déjà un de ceux qui dénonçaient tout ça.
Eh bien, écoute, j'espère que c'est, je le lui souhaite, en tout cas, de faire ce chemin-là.
Alors, on va peut-être faire une deuxième petite pause musicale. Quelle chanson choisis-tu ?
Alors, peut-être Nina Simone.
Alors, Nina Simone, pourquoi Nina Simone ?
Alors, il faut savoir que je n'écoute presque que du blues. et Nina Simone, alors, encore une fois, une femme forte qui porte un combat qui me touche beaucoup. Et c'est vraiment une voix que j'écoute très très souvent quand ça ne va pas. Cette femme me sauve, voilà, par sa force et aussi son côté sombre.
Bon, alors on écoute Nina Simone.
Une chanson d'amour.
Say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. There's no love for nobody else.
Réunion, la sensation. Radio Sud plus Réunion.
On parle de polar ce matin avec Marie Capron qui a écrit Priya, la fille du boucher. Donc voilà.
Rebonjour Sophie et rebonjour chers auditeurs.
Donc vous êtes toujours sur Radio Sud Plus. Et c'est vrai que moi je vous invite à lire des polars parce que c'est vraiment des romans toujours où il y a du suspense. On n'arrive pas à lire un peu et arrêter en général. Hein. Quand on a commencé un polar, on veut connaître la fin. Tout à fait.
Ah bah si, c'est ça, c'est que le polar est réussi en général. C'est vrai qu'on devrait le lire d'une traite, un polar.
Ouais, tout à fait. Donc c'est en tout cas ce qui s'est passé pour moi.
Alors, chouette.
Il y a pas mal de fausses pistes quand même. Hein. Donc on a un potentiel, alors ça c'est le truc classique, mais potentiel meurtrier. Et puis finalement, on va découvrir que c'est pas elle. Mais voilà, donc ça c'est...
Bah, tu sais Sophie, le polar se construit vraiment comme une toile d'araignée. Et donc le plus gros travail pour moi... Et c'est très compliqué, parce que je ne suis pas une joueuse d'échecs, c'est justement d'imaginer toutes ces fausses pistes et de tendre tous ces fils et de ne pas m'en mêler dedans. Et c'est la raison pour laquelle, en début d'émission, je te disais que j'étais extrêmement besogneuse et que je notais tout, parce que, un détail tout bête, mais par exemple, si tu annonces à la page 4 que les toilettes de l'unité de criminologie sont à droite et que à la page 50 tu dis qu'ils étaient finalement à gauche ou au sous-sol, ça peut paraître idiot, mais voilà, un détail comme ça, et ben tout de suite,
oui, ça c'est une incohérence, ouais.
Alors si c'est pour les toilettes, ça n'est pas grave, mais si tu fais ça avec un indice précieux et des indices, je les multiplie, eh bien tout ton roman s'effondre. Et ça, c'est vraiment mon obsession et ma crainte de laisser une coquille quelque part. Et figure-toi que dans le travail de recorrection, j'étais quand même fière au moins d'une chose, c'est que les corrections n'ont pas porté trop
sur les incohérences.
Sur les incohérences et sur les indices.
Bon, bah ça c'est une bonne chose.
Beaucoup plus sur les points virgules. Et les adverbes de manière. Alors je vous le dis, si vous écrivez du polar, eh bien défaites-vous des adverbes de manière. Vous savez, tous ces adverbes qui terminent en « ment » qu'on a très envie de placer partout quand on écrit « brusquement »,« immédiatement ». Eh bien en fait, ça alourdit le discours. Je n'y croyais pas, mais si vous les supprimez, vous allez encore gagner en efficacité. Arrow aux adverbes de manière.
Alors, j'ai juste envie peut-être de lire un peu du texte parce que, en fait, des fois, le texte parle de lui-même et vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Il y a un passage que j'avais retenu parce qu'en fait, il faut quand même un petit peu expliquer l'histoire sans trop en dire. On a un écrivain et on a voilà, une agence de police qui enquête sur des meurtres et finalement, pour une raison qu'on n'expliquera pas ici, ils vont se mettre à collaborer.
On peut expliquer pourquoi, hein, c'est pas gênant ça.
Oui, alors, vas-y.
Bah, en fait... la France est en pleine crise et donc la police et de manière générale les institutions, le service public est en manque de moyens financiers. Donc l'État français a l'idée d'avoir recours à un organisme américain qui s'appelle Témoin numéro 1 pour mettre en place une sorte de privatisation de la police. Et l'idée c'est que si vous payez très cher, vous pouvez participer à une enquête de police. Un petit peu comme Guy Laliberté qui s'était payé un voyage dans l'espace. Et donc, ma pauvre Priya se retrouve à gérer une enquête assez compliquée avec un écrivain qui est là parce que son éditeur a payé pour qu'il puisse retrouver de l'inspiration. Cet écrivain est un peu un boulet pour elle. Mais il paye, et grâce à l'argent qu'il donne à l'État, eh bien, l'État reverse à la police des sommes conséquentes qui lui permettent d'avoir plus de moyens.
Donc, alors, est-ce que c'est une idée pour la police nationale?
Alors,
ou
écoutez,
bien...
moi, je ne sais pas, mais ces derniers temps, il me semble quand même que la privatisation du service public est parfois à l'ordre du jour. Et il y a également beaucoup de gens qui paieraient cher pour participer à des enquêtes ou à des scènes de crime. Enfin, si vous avez vu les Black Mirror, les épisodes... Ouais. Voilà, on sait très bien que les gens ont soif de réalité. C'est un peu les jeux du cirque moderne. Donc je me dis qu'il y a des gens qui seraient certainement prêts à payer des fortunes pour assister à une enquête, voir un corps. Voilà, c'est l'attrait pour le morbide.
Peut-être que d'ailleurs il pourrait aider aussi, que de nouvelles idées germeraient.
Alors là,
d'autres gens participeraient, qui sont novices en fait dans le système.
Alors est-ce qu'un quidam pourrait aider par ses observations une enquêtrice ou une enquête? Je ne sais pas, peut-être. Là, c'est le cas, puisque quand même, Marc Aubert, mon écrivain, va tellement se passionner pour cette histoire qu'il va avoir envie d'écrire la suite.
Oui, c'est un peu ça. C'était un peu le passage où il se rend compte de tout ça que je voulais lire.
Eh ben voilà.
Je ne sais pas si c'est exactement là. Alors, je vais lire un petit bout. Tout à coup, Marc est saisi de tremblement. Ce qu'il vient de comprendre trace une voie lumineuse dans son esprit. Un chemin de salut. Pour mettre fin au sacrifice des enfants, il lui faut réécrire cette histoire. Sublimer cette folie meurtrière par la fiction. Se faire la voix de Laurie, la main de Laurie, la plume de Laurie. Pour que le sacrifice humain, la cause animale, doit être entendue. Pour que cesse le sacrifice humain, la cause animale doit être entendue. Il faut voler la vedette à cette tarée. Réunifier cet être tourmenté, soigner la psychose par la catharsis avant qu'elle ne recommence à agir.
Oui, voilà. Alors, tu connais cette histoire de catharsis. La catharsis, ça a été inventé par les Grecs et c'est une sorte de vaccin pour l'âme. C'est l'idée que si tu écris quelque chose d'atroce ou d'horrible ou même de beau d'ailleurs, eh bien le fait de le voir représenté, alors c'était le cas au théâtre, mais ouais. Le fait de le lire ou de le voir dans la fiction ou de le lire dans la fiction, ça va t'empêcher de commettre cette horreur que tu viens de lire parce que tu en auras été guéri, tu te seras rendu compte par le biais de la fiction du danger de l'acte que tu pourrais avoir envie de réaliser.
D'accord.
Bon, c'est le principe de la catharsis.
D'accord, moi je ne connaissais pas cette définition. Mais en tout cas, Marc, il va aller très loin là-dedans. Et puis bon,
oh,
il y a
oui.
encore d'autres choses qui vont se passer.
Pauvre Marc.
bon, ben, on ne va peut-être pas dire plus. J'espère que ça vous a donné envie, lecteur, de lire ce roman policier. Donc voilà. Est-ce que toi, il y a d'autres romans policiers qui t'ont passionné? Est-ce que tu as des auteurs favoris
ben
ou
oui.
des choses comme ça?
Oui, alors j'adore évidemment Tilliez, Caryl Ferret, Karine Gjebel. Je ne sais pas si on dit Gjebel ou... Alors là, j'ai peut-être ouais. assassiné son nom, je rectifierai. Mais cette femme écrit au scalpel. J'aime beaucoup Granger. Et puis évidemment les auteurs américains, doit-on parler du maître King?
Oui.
Alors là j'en oublie plein d'autres hein, très certainement.
Bien sûr.
Et puis n'oublions pas nos auteurs réunionnais. Je viens de finir le livre Terminus de Jonathan Terwood. Et alors j'ai dévoré, mais en particulier les dernières pages. Il m'a fait sprinter sur les dernières
D'accord.
pages. Terminus, je vous le recommande. Je vais attaquer le chat. Et la souris de Christophe Chabiran.
Oui.
Et ensuite, je me régalerai de Jean-Élie Chab.
Alors, j'ai commencé son livre. Hein, ça se passe à Madagascar.
Voilà.
Alors, en tout cas, j'en ai acheté hein, aussi. Donc, moi, j'ai aussi ma période un peu de
polar. Sous l'œil de Jaya.
Hein. Ouais, c'est ça. Sous l'œil de Jaya. Donc, c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas lu du policier. Puis, j'en ai acheté pas mal là-bas. Et je trouve que c'est intéressant. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai mis un post sur ma page. J'avais... commencer cette semaine de Caryl Ferret, pourvu que ça brûle, qui est en fait une sorte d'autobiographie de son processus d'écriture. Et en fait, lui, il écrit en voyageant, donc il fait un peu un genre de reportage politique sur toutes sortes de pays, et il imagine des crimes ou des histoires, mais il les décrit. Alors, ce qui m'a fasciné, moi, comment chaque personne qu'il rencontre va incarner un personnage, il va un peu s'en servir, il dit qu'il s'en sert soit d'un aspect physique, soit d'un trait de caractère, et que ça va nourrir ensuite chacune de ses histoires. Est-ce que toi ça fonctionne comme ça, que pour créer un personnage tu vas prendre ici, ça et là de X ou de Y que tu
ah
as
bah
pu
oui.
rencontrer?
Oui, alors si ce n'est que j'agglomère, je ne sais pas si on peut dire ça,
oui.
j'agglomère, j'utilise parfois, j'aime pas le mot utiliser non plus, mais en tout cas je me sers, c'est pas mieux
oui,
non plus.
Sûr.
Il y a souvent plusieurs personnes dans un personnage.
Oui, j'imagine bien, oui.
Voilà. Et bien sûr que tout... Alors, j'ai aussi des personnages qui ne sont inspirés que par une seule personne, parce que c'est une personne suffisamment complexe pour occuper toute la place.
Ah.
voilà. Priya n'est inspirée que d'une seule personne, Mam Yvonne n'est inspirée que d'une seule personne, et idem pour Marc Aubert, par exemple, ou idem pour Lison.
Bon, eh ben, je vous laisse découvrir tous ces personnages. Avant de se quitter, on écoute encore une dernière chanson. Tu as choisi ?
Alors, j'ai choisi mon chanteur préféré entre tous, Ray Charles.
Alors, on écoute et on revient vers vous pour se dire au revoir.
Treat me wrong. Come and love your daddy all night long, all right now. Hey, hey, all right. See the girl with the diamond ring? She knows how to shake that thing, all right now, darling. Mama, tell your pa, I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. When you see me in misery, come on, baby, see about me now. See me in misery. Come on, baby, see about me not yet. Hey, hey, all right. See the girl with the red dress on. She can do the birdland all night long. Yeah, yeah. What I say. What's that? What's that?
One more time? All right.
Notre émission touche à sa fin, donc on a parlé du livre Priya, la fille du boucher avec Marie Capron.
Un grand merci d'ailleurs pour ces belles questions.
Ben oui, j'espère que ça vous a donné envie de le lire et puis ben, que vous allez tous quand même passer des belles fêtes puisque je pense que l'émission va peut-être faire une pause pendant les fêtes de
une
Noël.
Une pause foie gras.
Une petite pause foie gras, bon appétit, lisez le livre et puis vous verrez si vous en mangez ou pas. C'est vous qui voyez. En attendant, ben, je te laisse juste la parole pour nous annoncer un peu quelles sont les suites pour ce livre.
Oui, alors je voudrais vous annoncer, chers auditeurs, un très bel événement. Vous savez que les médiathèques de La Réunion sont très actives. Et alors, les médiathèques du tampon organisent, dans le cadre des nuits de la lecture, deux rencontres. Elles ont lieu les vendredis 20 et samedi 21 janvier sur le thème de la peur. Et j'ai l'honneur d'être invitée le samedi 21 janvier à 15h30 à la médiathèque du tampon pour une rencontre. Une rencontre interview, alors vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez, on pourra échanger, et suivi d'une séance dédicace, suivi d'un certain nombre d'événements mystérieux et terrifiants que je ne vous dévoilerai pas, mais franchement, vous allez être gâtés si vous aimez avoir peur. Venez. Donc ça, c'est la première chose que je voulais annoncer. Et si tu me le permets,
oui,
Priya, la fille du boucher, qui est éditée chez Viviane Ami, sortira en livre de poche chez Flammarion pour la rentrée littéraire de septembre 2023. Et pour ceux qui ont écouté l'émission en entier, vous savez à quel point ça me tenait à cœur, cette sortie chez Flammarion. Voilà, donc ne lâchez rien, accrochez-vous chers auditeurs. Poursuivez et pourchassez vos rêves, parce que vous voyez, parfois, ça se termine bien, même quand on écrit du noir.
Bon, magnifique.
Merci.
Alors,
beaucoup.
Est-ce que Priya va reprendre aussi du galon? Elle va avoir d'autres enquêtes, là? Est-ce que tu vas
nous
faire une suite, hein?
Je suis actuellement à la page 5 du chapitre 5 de la suite.
Ah.
Et j'espère l'avoir fini pour août 2023.
Bon, ben on attend la suite avec impatience. En attendant, amis auditeurs, je vous souhaite de lire de très belles choses pendant les vacances de Noël. Ne lâchez rien, la lecture c'est toujours un moment privilégié. Achetez des livres à vos enfants pour qu'ils apprennent aussi ce plaisir tout petit. Des idées, vous en trouverez peut-être sur ma page, je vais en mettre aussi quelques-unes. Si vous ne la connaissez pas, ben j'ai une page Facebook qui s'appelle Page en Partage, vous pouvez faire des commentaires ou éventuellement me contacter pour participer à cette émission. Merci à tous et bonne fête de fin d'année.